Voilà, merci Arnaud. Moi, je me demande toujours comment on peut pas être ému parce qu'on vient de chanter. Et moi, je pleure, bon, j'espère que je vais pas être pris d'une pleurite aiguë, mais c'est vrai, c'est tellement beau que voilà, je suis ému. Voilà, ce matin, donc, on va faire quelque chose de spécial. Donc, de manière tout à fait exceptionnelle, ce matin, moi, j'aimerais partager avec vous une méditation autour d'un chant de Philippe de Courroux, qui est, comme vous le savez, c'est un chanteur bien connu dans le milieu évangélique. Alors, derrière, il y aura je mettrai des dessins ou des documents. Hein, c'est pas pour nous amuser, mais c'est simplement pour nous faire bien comprendre ce que le texte dit. Alors cette chanson, je l'ai extraite de son album « Tant qu'il y aura des hommes spécial Africa ». Hein, c'est une chanson que vous pouvez trouver sur YouTube. Dans un instant, je vous dirai ce qui m'a touché dans les paroles de ce chant, dont le titre est « Où es-tu, mon peuple ?». Alors bien sûr, je ne vais pas méditer sur les seules paroles de Philippe de Courroux, mais aussi à partir, et surtout à partir des versets bibliques qui correspondent au texte de l'auteur. Alors voilà pourquoi je ferai une distinction bien, bien particulière entre les paroles du chanteur et les textes de la Bible. Alors pour être franc avec vous ce matin, j'ai aimé ce titre, mais c'est bien sûr l'album entier qui est à mon goût un véritable petit bijou. D'ailleurs, moi je vous encourage à l'écouter. Alors oui, frères et sœurs, mon cœur d'ancien, de prédicateur, d'évangéliste, a été profondément touché par un texte très fort, très percutant, qui va, je l'espère, parler autant aux non-croyants qu'aux croyants, et qui va s'adresser à toutes celles et ceux qui cherchent des certitudes en Dieu. Et ce matin, j'aimerais introduire cette méditation par une petite réflexion personnelle sur Dieu. Vous savez que beaucoup d'êtres humains ont reçu dans leur enfance un enseignement relatif à un Dieu bon et rempli d'amour. Un Dieu juste et saint. Ils s'interrogent donc sur l'existence d'une telle perfection lorsqu'ils voient cette terre. Ils s'interrogent aussi sur l'existence de Dieu, que personne d'ailleurs n'a jamais vu. J'entendais récemment à la radio une fillette déclarer naïvement « Si on ne voit aucune photo de Dieu, c'est parce qu'il n'existe pas. » Réflexion d'une implacable logique enfantine, hélas partagée par de nombreux adultes. C'est vrai, on a la tendance aussi à penser que Dieu, c'est comme un homme, mais parfait. Or, Dieu, ce n'est pas un homme. On sait, nous, chrétiens, que Dieu est esprit et que nul être humain ne peut le voir sans mourir, tant sa sainteté est parfaite. Exode 33, 20, « L'homme, dit Dieu, ne peut me voir et vivre. » Et puis, lorsqu'il voit toutes les horreurs et tous les malheurs qui frappent sa belle planète, eh bien, l'homme ne peut s'empêcher de se questionner à haute voix et de dire « Mais où es-tu, mon Dieu ?» Et pourquoi permet-il, et pourquoi permets-tu de telles choses? Si le commun des mortels ne cesse de s'interroger sans trouver de réponse, eh bien les croyants, eux, ne sont pas en reste. Et face à un Dieu parfois silencieux et lointain, eh bien ils questionnent eux aussi les cieux et interpellent le divin Père Créateur. Où es-tu, mon Dieu? Je ne te vois pas dans ma vie. Au décours d'une épreuve, ou lors d'une persécution, ou tout simplement quand le monde vacille, comme en ce moment, que des fléaux secouent notre terre, et il y en a de plus en plus, eh bien, ils laissent éclater leurs doutes et crient « Tu te dis mon Dieu et tu laisses faire de telles horreurs, de telles atrocités ?» De même, dans nos milieux évangéliques, j'entends souvent dire « Moi, c'est fini, hein, je ne lis plus l'Ancien Testament. » Dieu y est trop cruel, il y a des massacres insupportables, je ne lis plus que le nouveau, où là il y a un Dieu d'amour et de grâce. Vous voyez, quelque part, on fait une différence entre le Dieu de l'Ancien et celui du Nouveau Testament, comme si Dieu avait changé. Hébreux 13,8 dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Alors, Jésus, qui est un Dieu, qui est Dieu, lui, il ne change pas. Il peut être à la fois un Dieu qui punit, mais aussi qui aime et qui pardonne, un Dieu qui corrige et extermine, mais aussi qui sauve. Tout cela selon les circonstances, les temps et bien sûr l'expression de sa propre volonté. Bon, maintenant, comprendre tout de Dieu, sa volonté, ses plans, sa façon d'agir, moi je pense que c'est complètement hors de portée de l'homme. Tout comprendre. D'ailleurs, la Bible affirme, dans Deutéronome 29-29, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Ce qui nous est utile de savoir, de comprendre, de mettre en pratique, eh bien, Dieu nous l'a révélé par la Bible. Tout le reste, ce qui est au-dessus de notre compréhension humaine, ce qui n'est pas utile à notre épanouissement spirituel, ben Dieu n'a pas jugé bon de nous les révéler. Il nous les a cachés. C'est le jardin secret de Dieu que nous ne devons pas chercher forcément à comprendre, mais à accepter par la foi. Et moi, je pose la question, est-ce qu'un père, un père de famille, est-ce qu'il doit tout dire, tout expliquer à son enfant de 4 ans? Ben non, il ne comprendrait pas. Voyez-vous, frères et sœurs, les pensées de Dieu, les voies qu'il suit, non seulement sont différentes, mais bien supérieures à celles de l'homme. Et on retrouve ça dans la Bible, dans Ésaïe 55,8. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Alors, lorsqu'il regarde ce monde avec ses yeux charnels, que voit l'homme? Qu'est-ce qu'il voit? Il observe perplexe un monde qui a été créé par un Dieu juste, parfait et plein d'amour, mais qui dysfonctionne totalement. Ce monde véhicule la haine, la violence, la méchanceté. Il déborde d'inégalités et d'injustices. Alors s'il y découvre malgré tout quelques belles et bonnes choses, elles sont hélas noyées dans un océan d'horreur. Frères, sœurs, vous le savez, dans l'horreur, comme dans le beau, il n'y a pas de plafond. On peut toujours monter plus haut. Alors, soyons justes quand même, on trouve une limite, celle qui vient parler fort à notre conscience et nous empêche de rentrer dans une forme d'habitude. Vous savez, oh ben c'est comme ça, de toute façon, qu'est-ce que j'y peux, que voulez-vous que j'y fasse? On peut rien changer. Voilà. Après ces quelques réflexions préliminaires, moi je vous propose d'entrer de plein pied dans la chanson de Philippe de Courroux. Vous savez, on a parlé d'horreur. On a parlé d'horreur dans ce monde. Et on peut se poser la question, quoi de pire? Et l'homme se questionne, quoi de pire qu'un enfant écrasé sous les bombes? Quoi de pire? L'enfance, c'est la pureté, la naïveté. Ici, c'est l'innocence frappée de plein fouet par la folie des hommes. Quoi de plus terrible qu'une violence aveugle, qu'une arme de destruction massive qui frappe ce qu'il y a de plus fragile, un enfant? Comment peut-on accepter une telle horreur dans un monde créé par un Dieu qu'on dit si bon? Comment est-ce possible? Quoi de pire, poursuit l'homme du monde, qu'un enfant abattu comme un chien? L'enfance est aussi un univers qu'on protège, qu'on couvre de tendresse. C'est en tout cas ce que l'on est en droit d'attendre d'une humanité responsable. Et vous le savez, ce monde est sans pitié, sans considération pour ses enfants, qu'elle broie et traite pire que de vulgaires animaux. Comment peut-on accepter de voir de telles atrocités dans un monde créé par un Dieu d'amour? Quoi de pire? Quoi de pire à présent qu'un enfant vendant son corps pour survivre? Le corps d'un enfant, vous le savez, ça se respecte. L'enfant n'est pas prêt pour des relations d'adulte. L'enfance, c'est le temps des câlins maternels, des bisous paternels. Alors comment des adultes sur cette terre peuvent-ils profiter de la misère humaine pour déshonorer leur petit corps d'enfant? Comment accepter un tel irrespect dans un monde créé par un Dieu juste? Quoi de pire que la mort qui va saisir sa main? L'enfance, c'est la fraîcheur, l'aurore de l'existence. C'est aussi un temps d'espérance, c'est l'avenir, la vie. Alors un enfant qui meurt jeune suite à un accident, une maladie ou une guerre, c'est un petit être qui part hélas trop tôt, qui n'a pas encore vécu. Vous savez, dans mon métier de kiné, moi je vois de très jeunes enfants handicapés, attachants, qui meurent très jeunes à la suite de terribles maladies. Et ça fait mal au cœur, franchement. Leur regard plein de promesses soudain s'éteint, comme la mèche d'une bougie qui se consume. Leurs jeunes yeux vont se fermer à jamais, laissant à leur entourage le seul souvenir d'une vie bien trop brève. Frères, sœurs, comment peut-on humainement accepter une telle injustice? Où donc est le Dieu d'espérance, le Dieu de compassion, le Dieu de la vie? Alors, mourir jeune, certes, mais qu'y a-t-il de pire qu'une agonie sans fin? Oui, quoi de plus horrible qu'une souffrance qui s'éternise? Que ce soit chez un vieillard qui implore pour qu'on mette fin à ses jours, chez un jeune accidenté de la route qu'on maintient artificiellement en vie, chez un enfant dont le corps est déformé par la maladie, le cancer par exemple. Comment peut-on concevoir de telles souffrances, de tels drames dans un monde créé par un Dieu bon? Et pourtant, il y a encore pire que ça. Toutes ces horreurs qui font les gros titres des journaux ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Que dire de toutes celles plus souterraines, mais toutes aussi destructrices que les souffrances existentielles, les souffrances psychiques et psychologiques, toutes les blessures sentimentales, les comportements addictifs et compulsifs? Dans ce domaine, dites-moi, qu'y a-t-il de pire qu'une vie vide et sans espérance? C'est vrai qu'on aspire le plus souvent à bâtir une vie heureuse, avoir une belle profession, une famille unie, vivre de belles expériences. Mais quelle est la réalité de cette vie? Se marier, oui, mais la plupart des couples divorcent après 5 ans. Ils volent en éclats, les familles dysfonctionnent et se décomposent. Et puis le chômage est bien souvent au rendez-vous. Et lorsqu'on travaille, on est peu considéré. Et à la fin de la vie, on va tristement mourir comme nos parents. Alors à quoi ça sert de se donner autant de peine si c'est pour finir tous dans un trou? L'Ecclésiaste dans la Bible disait « J'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. » Poursuite du vent, c'est-à-dire que ça ne sert à rien, quoi. Franchement, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quel est le sens de cette vie? Si Dieu m'a voulu ici-bas, j'en vois vraiment pas l'intérêt. Quoi de pire qu'une vie qui ne finit jamais? Quoi de pire qu'une dépression? Quoi de pire que voir tout en noir, ne pas pouvoir s'extraire de ses ténèbres intérieures, être sans espérance? Quoi de pire que de ne pas dormir et attendre le matin qui ne vient pas? Mon Dieu, suis-je sur cette terre pour vivre comme un mort? Quoi de pire que le piège d'un plaisir éphémère? Qu'y a-t-il de plus terrible qu'une vie qui bascule en un seul moment, en un seul instant? Quoi de pire qu'une décision qu'on va regretter toute sa vie? Quoi de pire que le plaisir d'un soir qui va détruire un couple, une famille, une vie? Suis-je sur terre pour jouer à pile ou face avec ma vie? Quoi de pire qu'obéir à ce qui veut ta mort? Combien d'êtres humains sur cette terre vivent dans l'addiction? Ils savent qu'ils se font du mal et font du mal à leur entourage. Ils savent qu'ils ruinent leur vie et leur carrière et détruisent leur famille. Mais ils obéissent à ce qui les entraîne vers la mort. Quoi de pire que de mourir à 20 ans? Franchement, dites-moi, avons-nous 20 ans pour vivre ou pour mourir? Quoi de pire qu'un jeune qui se suicide, qui meurt d'une overdose? Quoi de pire qu'un jeune qui se tue en voiture après une soirée bien trop arrosée? Suis-je sur terre pour abréger mon temps? J'espère que vous êtes toujours là, que je ne vous ai pas perdu. J'espère que vous n'êtes pas tombé dans la déprime. Toutes ces réflexions que nous venons de faire sont celles que la majorité des êtres humains se font. Face à ces constats, l'homme finit par se poser la question « Ben, où es-tu, mon Dieu? Où es-tu ?» En réalité, par cette question, est-ce que l'homme cherche à trouver Dieu? Non. L'autre jour, une collègue m'a interpellé, elle m'a dit « Hé, Daniel, il est où ton Jésus ?» Bon, ben, moi, je lui ai dit « Catherine, tu veux que je te donne une réponse ?» Elle m'a dit « Non, non, ça ne m'intéresse pas. » Non, l'homme, au contraire, cherche à demander des comptes à Dieu, à le stigmatiser. En français courant, ce serait « T'es où, Dieu, pendant que nous, on en bave sur cette terre ?» Si tu es vraiment le Tout-Puissant, alors montre-le. Sors-nous de nos souffrances. Ne laisse pas faire de telles horreurs. Où es-tu, Dieu, pour ne pas voir nos souffrances, pour ne pas entendre nos cris et nos pleurs? Vous l'avez remarqué, l'homme a toujours besoin d'un coupable, d'un bouc émissaire. Et ici, c'est Dieu. Le monde soupire dans les pleurs, les larmes. Lève-toi pour lui. Oui, ce monde souffre. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, la Bible le confirme. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. C'est le constat que faisait Job, Job 5-7. C'est le lot de l'homme de souffrir, car le péché, la désobéissance d'Adam, la chute, l'ont conduit dans la souffrance. D'ailleurs, souvenez-vous ce que Dieu dit à la femme. « Je rendrai tes grossesses très pénibles, et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. » Et à l'homme, tu tireras ton pain à la sueur de ton front, Genèse 3. En français courant, ça va être dur pour toi, mon vieux, hein. Tu vas en baver. Voilà. Ici, la souffrance a deux grandes origines. D'une part, en rejetant l'appel de Dieu, en rejetant sa main tendue, eh bien, l'homme s'est placé sous la colère divine. Jean 3:36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Ésaïe 60, verset 10, « Dans ma colère, je t'ai frappé. » Oui, Dieu punit la partie du monde qui l'a rejeté. Il ne punit pas les fautes, il punit le rejet, ceux qui l'ont rejeté. Mais il punit tout en aimant. Il la prive de sa présence et la frappe de son ardente colère. Mais voyez-vous, Dieu, dans son ardente colère, ne frappe pas le monde dans le but de l'anéantir ou de lui faire du mal, mais dans le seul objectif de le faire changer d'attitude, de le faire changer de comportement. D'autre part, en rejetant la main tendue de Dieu, l'homme s'est placé sous sa propre folie à lui, sa propre autorité, car Dieu le laisse se débrouiller. Bon, c'est bien, tu veux faire seul? Ben, vas-y, on va voir ce que tu vas faire. Romains 1, 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, eh bien, il les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et ces choses indignes, ce sont toutes les souffrances que l'homme s'impose, mais aussi impose aux autres. Vérifions l'adage, l'homme est un loup pour l'homme. Alors, frères, sœurs, je vous fais juge ce matin. Voilà un monde en souffrance parce qu'il a rejeté Dieu, qui reproche à Dieu de ne pas se lever, de ne pas intervenir pour faire cesser un feu qu'il a lui-même allumé, une souffrance qu'il a lui-même provoquée. Franchement, on marche sur la tête, hein ? Jamais cette phrase de Paul dans Romains 1 n'a trouvé autant de sens. Se vantant d'être sage, ils sont devenus complètement fous. Si le monde souffre, eh bien, sachez qu'il n'est pas seul. Dieu, lui aussi, pleure sur la souffrance de ce monde. Plus encore, il se lamente sur la dureté de son cœur. En réalité, si le monde pleure, ben, il pleure sur lui-même, sur sa propre souffrance. Il ne pleure pas sur le mal qu'il fait aux autres à Dieu, à sa planète. Non, il ne remet pas en cause sa conduite. Vous savez, Dieu dit dans Jérémie 3, versets 19 à 21, voilà ce que dit Dieu. « Je me disais, j'aimerais bien vous traiter comme des fils. J'aimerais bien. Je souhaiterais vous donner un pays de délices, vous faire entrer dans ce qu'il y a de plus beau au sein des nations. Je me disais, ils m'appelleront papa et ils me suivront partout. Mais vous m'avez trahi comme une femme trompe son mari. » L'homme qui appelle Dieu à se lever, qui lui reproche de ne pas intervenir, eh bien, c'est le pyromane qui accuse le pompier de ne pas faire son travail. Vous voyez l'image ? Où es-tu, mon Dieu ? Entends-tu les cris des hommes qui souffrent ? Où es-tu, mon Dieu ? Dans son manque de lucidité, l'homme croit que Dieu ne voit ni n'entend, qu'il n'est pas concerné par sa souffrance. C'est faux ! C'est une fausse croyance ! Bien sûr que le Dieu compatissant est sensible à la souffrance humaine. Il a des sentiments, mais Dieu n'agit pas sous l'émotion, comme nous. Il ne dit pas « Oh les pauvres gens, comme ils souffrent, vite je vais intervenir, vite je vais venir. » Dieu est sensible et agit quand ? Dieu est sensible et agit lorsqu'un cœur se repent, s'humilie, pas seulement quand il souffre. Psaume 51, verset 19. « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Voilà, ce n'est pas la souffrance qui interpelle Dieu pour agir. Quand ce monde reproche à Dieu de ne pas intervenir, Dieu lui répond par la Bible, qui est son livre de révélation. Alors, vous dites que je ne fais rien pour l'humanité, parce que vous ne comprenez pas ce que je fais, et aussi parce que je n'agis pas selon vos désirs et vos attentes. Surtout, vous ne voyez pas ce que j'ai déjà fait pour l'humanité perdue. Alors, écoutez. Quoi de plus que le don du Fils de Dieu pour les hommes ? Pour sortir l'humanité de ses souffrances, pour la libérer des chaînes de la dépendance et du péché, j'ai dit Dieu, envoyez mon propre Fils, unique et aimé dans le monde, pour qu'il soit la lumière qui éclaire chaque homme. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus ? Eh bien, j'ai quand même fait plus. Quoi de plus que le prix de son sang à la croix ? J'ai fait plus, dit Dieu, non seulement j'ai envoyé mon Fils dans le monde, mais je l'ai sacrifié pour vous à la croix, pour que son sang répandu couvre tous vos péchés. Vous vouliez que je fasse encore plus ? Quoi de plus que sa mort qui nous donne la victoire ? Mais j'ai encore fait plus, dit Dieu. Il est venu mourir sur le bois de la croix, à ta place, à chacun de nous, à la place de chacun de nous, pour que par sa mort, son sacrifice, eh bien chacun obtienne la victoire sur le péché, sur la mort éternelle. Ésaïe 53, versets 4 et 5, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Que vouliez-vous que je fasse de plus ? Vous avez raison, ce n'est pas encore assez. Quoi de plus que sa vie et sa présence en nous ? Quoi de plus que l'Esprit répandu ? Voilà ce que Dieu a fait encore en plus. Si ce n'était pas encore assez, Jésus nous associe à sa résurrection. En nous donnant une vie nouvelle en Christ, en chassant nos ténèbres intérieures, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a placé en nous le Saint-Esprit. Nous qui croyons, le Saint-Esprit, qui est une puissance spirituelle qui sonde même les profondeurs de Dieu et répand sa connaissance dans les cœurs de celles et ceux qui l'ont choisi, mais aussi qui distribue tout le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Qu'attendez-vous de plus ? Qu'est-ce que vous vouliez que Dieu fasse de plus ? Il dit... Quoi de plus ben, j'ai encore apporté quelque chose de plus, c'est le nom de Jésus. Vous en voulez davantage? Eh bien voilà, Jésus que Dieu a élevé, à qui il a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce beau nom, ce nom glorieux et puissant, eh bien vous le portez. Si vous l'avez choisi, c'est le nom de chrétien. Chrétien, ça vient de Christ, de Jésus. Vous le voyez donc, Dieu ne se lève pas à tout moment pour intervenir. Il l'a fait il y a 2000 ans en Jésus-Christ, pour sortir l'homme et l'humanité de sa misère. En Jésus-Christ, il lui a offert la possibilité de ne plus être sous la colère divine. En Jésus-Christ, il lui a permis de devenir le nouveau peuple de Dieu. En Jésus-Christ, il nous appelle chacun, chacune, à sortir des chaînes de ce monde. Ésaïe 45, 22, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Jérémie 51, 45, « Mais sortez du milieu de ce monde, mon peuple. » Jadis, avec Israël, Dieu s'était déjà choisi un peuple. Aujourd'hui, Dieu veut se constituer un nouveau peuple de femmes et d'hommes sauvés en Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 9, « Désormais en Jésus-Christ, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. » Alors, où es-tu, mon peuple ? Au début, on avait « Où es-tu, mon Dieu ?» Maintenant, « Où es-tu, mon peuple ?» demande Dieu. Jésus s'adresse à présent à toutes celles et ceux qui crient après lui pour lui reprocher son inertie. « Pourquoi ne fais-tu rien ? Pourquoi ? Où es-tu ? » etc. Mais il les invite vivement à venir le rejoindre au sein de son peuple. Jésus dit « J'ai pris ma part, j'ai tout accompli à la croix. Ben, toi aussi à présent, prends ta part et suis-moi. » Où es-tu, mon peuple ? Le monde soupire dans les pleurs, les larmes. Lève-toi pour lui. Oui, mon peuple, dit Dieu, je ne t'ai pas racheté et sauvé pour que tu méprises le monde d'où tu es sorti. Je ne t'ai pas offert mon Fils à la croix pour que tu vives comme avant. Je ne t'ai pas rempli du Saint-Esprit pour que tu te reposes et tu sommeilles. Entends-tu ce monde qui souffre et qui crie ? Ce monde qui a besoin du salut, de la liberté, de la délivrance, s'il te plaît, lève-toi pour lui, mon peuple. J'ai besoin de tes mains pour guérir et pour bénir. De quoi ce monde qui a perdu beaucoup de ses valeurs a-t-il le plus besoin ? Eh bien, il a grand besoin de références, de modèles, d'exemples à suivre. Il a besoin que des femmes et des hommes sauvés et transformés par Dieu se lèvent et viennent vers lui. Ce monde a besoin de femmes et d'hommes qui viennent lui offrir des bénédictions de la part de Dieu, lui qui pleure et qui souffre. Ce monde a besoin de femmes et d'hommes qui viennent lui offrir des guérisons de la part de Dieu, lui qui est blessé et malade. C'est toi, mon peuple, que j'envoie bénir ce monde, toi que j'ai béni. C'est toi, mon peuple, que j'envoie guérir ce monde, toi que j'ai guéri. Es-tu prêt ? Es-tu prêt, mon peuple ? J'ai besoin de ta bouche pour annoncer la paix. Ce monde est en guerre dans son cœur. Il est en colère contre Dieu. Alors ce monde vit dans l'inquiétude, l'angoisse et l'agitation. Il a besoin qu'on lui donne la paix. La paix avec Dieu. Ésaïe 52, 7. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Lève-toi, mon peuple, dit Dieu, pour être un exemple de paix. Lève-toi, mon peuple, pour annoncer au monde la réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ. Le veux-tu ? J'ai besoin de ton cœur pour déverser mon amour. Vous savez, ce monde est malade, il est pécheur, injuste et rempli de haine. Chacun vit pour lui-même. Il y a peu de place pour les autres. Peu de place pour l'amour et le pardon. Alors, dans ce désert de solitude compassionnel, Dieu a ouvert dans le cœur de son peuple un oasis de grâce en Jésus-Christ. Romains 5, 5. L'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Vous savez, Dieu, en réalité, est à la fois créateur et émetteur d'amour. Il le déverse en abondance dans nos cœurs, de ceux qui croient, pour que nous, son peuple, soyons des relais pour le déverser sur ce monde. Dieu appelle son peuple à déborder d'amour, à le répandre comme un torrent impétueux sur ce monde en souffrance. Es-tu prêt, mon peuple, à élargir ton cœur ? J'ai besoin de tes pieds pour porter l'Évangile. Ce monde vit dans l'ignorance, car la parole de Dieu n'est pas arrivée à ses oreilles ni à son cœur. Il ne voit ni n'entend. Il est totalement fermé à la spiritualité. Comment entendra-t-il le message de Dieu ? Oui, car comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui parle, s'il n'y a personne qui prêche ? Es-tu prêt à te lever, mon peuple, pour porter la bonne nouvelle à ce monde qui meurt ? J'ai besoin d'un peuple qui se lève, dit Dieu. Oui, frères et sœurs, Dieu veut nous utiliser, nous, son peuple, au service de sa gloire, nous associer au salut du monde si cher à son cœur. En réalité, vous savez, Dieu, il pourrait se passer de nous, hein, mais il nous associe à sa gloire. Dieu veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. Pour cela, il a besoin d'un peuple qui se lève. Il dit aussi, j'ai besoin de disciples fidèles. Un peuple, oui. Dieu a besoin de bien plus qu'un peuple. Il attend de nous que nous soyons des disciples, que nous lui soyons attachés à sa parole, que nous marchions à sa suite, qu'il puisse compter sur nous, que nous soyons dignes de sa confiance. Jean 8:31. Alors Jésus dit aux disciples qui avaient cru en lui, « Si vous vous attachez à ma parole que je vous ai annoncée, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité qui fera de vous des femmes et des hommes libres. » Voulez-vous être disciples du Christ ? C'est ça la question. J'ai besoin de toi. Si nous formons le peuple de Dieu, si nous sommes les disciples du Christ, alors nous sommes chacun connus de lui. Il nous connaît individuellement, personnellement, intimement. Il connaît nos cœurs. C'est ce que témoigne d'ailleurs le roi David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Psaume 139. Il connaît tout Dieu de nous. Tout. Frères, sœurs, Dieu ne veut pas que nous nous cachions derrière une dénomination de peuple, d'église, de religion. Il nous veut responsables chacune, chacun de sa propre vie, de sa propre implication, de son propre investissement spirituel. Hein, on ne répondra pas, nous, devant Dieu, on ne sera pas responsable en église. On sera responsable individuellement. Dieu a besoin d'une relation d'intimité avec moi, d'un véritable cœur à cœur. Je te cherche de tout mon cœur, Père. Ne me laisse pas m'égarer. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Psaume 119. Voilà notre relation intime avec Dieu. Dieu a besoin que je connaisse sa parole. Elle rend pur mon sentier. Lorsque je la serre dans mon cœur, je ne pêche pas contre toi. Oui, ta parole, mon Dieu, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dieu a besoin que je témoigne son amour au sein de ma famille, à mon travail, dans mon quartier, au quotidien, partout. 1 Thessaloniciens 4:9, c'est Dieu qui nous a appris à aimer. Je vous exhorte donc, dit Paul, à abonder toujours plus dans cet amour. Dieu a aussi besoin que je me positionne pour lui. Il le veut à l'image d'Élie qui dit à chaque Israélite, « Jusqu'à quand hésiterez-vous ? Si l'Éternel est Dieu, bien suivez-le, suivez-le. » Oui, Dieu a besoin de moi. Suis-je disponible pour le servir ? Il n'y a pas de compétence particulière à avoir pour servir Dieu. Hein, pas besoin de bac plus 15 pour le suivre. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu lui-même qui nous accorde les compétences dont nous avons besoin pour le servir. Ce qui est de notre ressort, de notre responsabilité, c'est notre disponibilité de cœur. Avoir un cœur bien disposé, entièrement offert à Dieu, un cœur fidèle, voilà ce que Dieu il attend, pas des compétences. C'est en cela que Dieu veut que nous soyons et non que nous fassions. Voilà. Il veut que nous soyons des hommes, des femmes qui ouvrent et qui donnent leur cœur. Alors, à ce « Où es-tu, mon Dieu ?», l'Éternel répond « Où es-tu, toi ?» Où es-tu, toi, à chacun ?« J'ai besoin de toi, lève-toi et suis-moi, car ce monde a besoin de toi. Es-tu prêt ? Es-tu disposé à te lever ? Alors viens, je t'attends. » Bon, à présent, moi, je vais vous inviter, si vous voulez bien, à écouter la chanson de Philippe de Courroux, hein, qu'on va passer. Donc, on peut l'écouter ou dans une attitude de prière, et puis écoutez bien les paroles.